Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène au Togo, en Afrique de l'Ouest. Dans ce pays, à l'instar du reste de cette région d'Afrique subsaharienne, les maladies de peau constituent une cause fréquente de consultation dans les centres de santé de premier recours. À Lomé, il s'agit par exemple du deuxième motif invoqué lors des visites chez le médecin. Dans un contexte de pénurie de dermatologues, une pénurie qui concerne d'ailleurs de nombreuses spécialités médicales, la prise en charge des affections cutanées constitue un véritable défi, particulièrement en milieu rural. Dans ce secteur de la santé dermatologique, l'e-santé représente d'ores et déjà un recours pour fournir des avis et des recommandations aux agents qui officient dans les centres éloignés des villes, des structures dépourvues de personnel qualifié. À l'occasion des secondes assises de télédermatologie, Raphaël Constant est allé à la rencontre de patients, d'associations, de médecins spécialistes pour faire le point sur l'accès à cette spécialité dans la région. Santé de la peau au Togo, c'est un reportage de Raphaël Constant en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre. Raphaël Constant, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors après Bamako, en 2017, Lomé a accueilli les secondes assises de télédermatologie les 26 et 27 juin dernier, assises organisées par la Fondation Pierre Fabre.
Oui, une rencontre qui a réuni plus de 10 pays de la sous-région pour faire le point sur l'état d'avancement des projets soutenus par la Fondation Pierre Fabre au Mali, en Mauritanie et tout récemment au Togo. Mais d'abord, pour avoir un aperçu du quotidien des dermatologues, j'ai suivi le professeur Vincent Pitché, chef du service de dermatologie au CHU Sylvanus Olympio et professeur de dermatologie à la Faculté des sciences de la santé. Son service s'articule autour de trois départements, les consultations, tous les matins du lundi au vendredi, où travaillent trois dermatologues à temps plein, les hospitalisations, où l'on trouve un pavillon de femmes et un pavillon d'hommes, et un centre universitaire chargé d'encadrer les étudiants en formation au DES, le diplôme spécialisé de dermatologie depuis 2011. Rendez-vous au premier étage du CHU Sylvanus Olympio.
Bonjour, bonjour. Je pense à Pitché. Venez. C'est mon bureau ici, mais c'est plein parce qu'on a des... On a une consultation, il y a des étudiants.
Bonjour, je vous présente des collègues, une collègue assistante, Dr Capo. On a des DES de 4e année, de 2e année. On a des internes qui sont en stage. Et donc, ils viennent aussi bien en consultation pour voir ce qui s'est fait en consultation, mais aussi ils vont en salle aussi pour voir ce qui est en salle. Donc, ça fait partie de nos missions de centre hospitalier universitaire de soins, d'enseignement et d'encadrement d'étudiants. Donc, c'est pour ça que, ouais, la salle est un peu pleine.
Alors, justement, combien de patients vous avez aujourd'hui?
Nous, on ne fait pas de consultation sur rendez-vous. On prend tout venant et on consulte de lundi, tous les matins, lundi jusqu'à vendredi. Et donc, en moyenne, ces derniers temps, on tourne avec 20-25 en moyenne. On a trois services de dermato à Lomé, public. On a le CHU, Sylvain Olympio, le CHU Campus. On a le centre dermatologique de Gonsi, mais qui est un centre à vocation santé publique, où il y avait le programme LEPRO. Donc, il y a au moins trois services. Et ces services consultent pratiquement tous les matins.
Allons-y. Quel est ton problème aujourd'hui?
J'ai des démarrages, des boutons qui me font gratter.
Ça, c'est depuis quand?
Oh, ça fait une semaine.
D'accord. Et l'enfant se gratte aussi?
Oui, lui se gratte aussi.
Et ça a commencé par qui?
Ça a commencé par lui.
Et vous avez pris ça?
Oui, oui.
Et la maman?
Et la maman aussi gratte.
Et la soeur?
Elle aussi.
Bon. Je suis suspect d'ascabiose. Donc, je vais regarder. C'est ça, vous voyez, des lésions papuleuses comme ça. Vous grattez beaucoup plus la nuit?
Oui, la nuit.
Ouais.
Surtout le petit garçon.
Oui, oui. Donc la glace, c'est un produit familial. Ça commence par le petit, le papa a ça. Les deux enfants, ça, la maman a ça. Donc c'est, ouais, c'est ça. Donc c'est,
on voit sur le coude du petit.
Oui, oui, c'est ça, on voit sur le coude.
Des grosses croûtes.
Oui, grosses croûtes. Souvent, ça se localise au niveau de la fosse interne des poignets et des bras, au niveau des coudes, au niveau des fesses, comme c'est des acariens, les malades gâtent la nuit. Et quand c'est très contagieux, la proximité fait que toute la famille est atteinte. Donc il faut traiter tout le monde en même temps et avec le même type de médicaments. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre les traitements, sinon il y aura une recontamination. C'est la période, donc il faut traiter. Tu as l'INAM, tu as l'assurance, donc tu dois prendre un bon, enfin un dossier. D'accord. La maman est où?
Elle est dehors.
Il faut l'appeler. On explique en même temps à tout le monde comment le traitement doit être fait.
C'est une des pathologies les plus récurrentes?
Oui, c'est très récurrent. Et puis c'est fréquent, c'est récurrent. On voit ça aussi bien en ville que dans les campagnes. Bon, ça vient de façon épisodique dans l'année. Il y a des petites épidémies qui viennent souvent dans l'année. Ouais, maman, ça vous gratte aussi?
Oui.
Ah, c'est la nuit?
Oui, la nuit.
D'accord. Comme c'est dans la laiterie, c'est pourquoi vous vous grattez beaucoup le soir. On va désinfecter aussi la laiterie. On va prescrire un médicament pour désinfecter la laiterie, les nattes, les sous-vêtements portés souvent à la maison. Et un médicament pour vous-même, pour vous traiter. Et dans une semaine, vous revenez en contrôle pour qu'on voit. Est-ce que vous avez des questions?
Quelle est la cause de la maladie?
C'est dû à une petite bête qu'on appelle Saccopette scabéi. C'est un parasite, mais c'est un acarien. Le petit a pris ça à l'école, quelque part il a mis ça à la maison et tout le monde l'a pris. Mais c'est pas grave, on traite, hein, on traite, ça se guérit, donc il n'y a pas de problème.
Donc il y a deux produits à solution. Vous l'appliquez sur tout le corps, sauf le visage, le soir. Disons aujourd'hui c'est mardi. Donc vous allez commencer mardi soir, mercredi soir et jeudi soir. Quand vous allez vous coucher, vous appliquez à partir du cou jusqu'à la plante des pieds, vous dormez. Vous quatre, hein, vous dormez avec le lendemain, vous vous levez, vous vous lavez normalement. Donc trois soirs successifs, c'est compris, non? Maintenant, ce que vous devez acheter, ça s'appelle Acadus. Vous allez mettre vos habits, ce que vous avez l'habitude d'utiliser régulièrement. Vous cherchez un sac qu'on peut fermer. Vous allez mettre les habits dedans, vous allez pulvériser.
D'accord, on fait comme ça. Donc, rendez-vous dans une semaine, plus ou moins, quoi. Il n'y a pas de problème, vous verrez même. À 8 jours, à 9 jours, ce n'est pas un problème.
Merci.
Le travail d'un dermatologue, c'est vraiment le volet consultation. C'est-à-dire qu'on consulte beaucoup plus qu'on hospitalise. Évidemment, en dermato, les pathologies lourdes sont moins fréquentes que les pathologies infectieuses classiques comme l'infection cutanée, les mycoses, les eczémas. Et en hospitalisation, c'est plutôt les pathologies comme le psoriasis, les érysipèles qui sont hospitalisées, qui sont graves et dont le malade est un peu handicapé.
Et justement, quelles sont les affections dermatologiques les plus fréquentes que vous voyez?
À l'OBE, on voit en tête les dermatoses immunoallergiques. De plus en plus, on voit des eczémas de contact, de la dermatite atopique chez les enfants. Après, il y a les mycoses cutanées. Après les mycoses cutanées, on a les infections bactériennes classiques, cutanées, comme les impétigos, les érysipèles qui constituent le premier motif d'hospitalisation actuellement, et d'autres pathologies virales, comme l'herpès, comme les verrues, les molluscums. Alors qu'en milieu rural, c'est les dermatoses infectieuses qui sont en tête. Mais en ville, c'est plutôt les allergies. Nous sommes 16 dermatos au Togo, 14 sont à Lomé, dont 7 en privé, et 2 seulement à l'intérieur du pays, notamment à Kara, qui est à 460 km d'ici.
Et 16 dermatos pour, faut le dire, 8 millions d'habitants.
Oui, malheureusement, les 14 dermatos sont à Lomé, et Lomé n'a que 1,5 million. Donc, ça veut dire que le reste, il reste 2 dermatos pour à peu près 6 millions d'habitants. Vous voyez un peu l'aspect de répartition inéquitable des dermatos sur le temps du territoire togolais. Comme tous les pays, on est un peu très centralisé, tout se trouve à la capitale.
Et alors justement, pourquoi cette discipline est autant sous-représentée?
Actuellement, on pense que la plupart des maladies dermatologiques ne rapportent pas trop, il n'y a pas de gestes. Et donc les gens préfèrent faire la gynéco, la cardio, la radio, où on peut s'installer facilement. Pendant longtemps, la dermato en Afrique, les aspects prioritaires de maladies cutanées comme la lèpre, la vénérologie, notamment les infections sexuellement transmissibles et le VIH-SIDA, étaient pris comme priorité de santé publique. Et dans le reste, les affections courantes n'étaient pas considérées comme graves. Et donc, bon, il n'y avait pas trop de financement, et donc c'était pas très attractif. Ça fait que la dermato, comme au Togo, comme ailleurs, comme vous l'avez dit, dans d'autres pays, en Afrique subsaharienne, il y a très peu de dermatologues. Le second problème, c'est le problème de plateau technique. Comment on réfléchit à former un chirurgien, un dermato sur l'aspect chirurgical. On ne fait pas encore de laser. Bon, on fait les tests épicutanés. On a deux collègues qui ont fait une formation d'allergologie, mais on ne fait que la dermatologie générale.
Et en termes de traitements, est-ce qu'ils sont tous disponibles?
La plupart des traitements sont disponibles pour les pathologies les plus fréquentes dans consultation et en hospitalisation. C'est disponible. Le ministère fait un effort de commander des médicaments à travers les centres d'achat, à travers le profil de maladies disponibles en zone rurale, notamment tout ce qui est palu, dermatose courante, et la centrale d'achat disponible de médicaments en fonction de ces pathologies, pour éviter les problèmes de péremption et puis pour éviter le fait que les gens n'aient pas accès. Donc c'est ça. Bon, globalement, on n'a pas trop de problèmes de disponibilité des médicaments. En fait, le vrai problème, c'est est-ce que les gens ont les moyens d'acheter ces médicaments?
Est-ce que l'État accompagne les spécialistes?
Oui. Oui, parce que l'État fait un effort de faire un planning de recrutement des spécialistes pour combler le gap. Et nous sommes représentés dans les grands comités de décision au niveau du ministère, notamment pour les médicaments. Quand on peut faire la liste des médicaments au niveau national, pour prendre en compte ces préoccupations. Sinon, quand la liste est arrêtée, comme faisant passer la liste des médicaments essentiels, si les spécialistes ne sont pas retrouvés, vous avez du mal à avoir ces médicaments sur le terrain. Donc, ça veut dire que l'État nous associe. L'État nous associe aussi dans le cadre de la formation médicale continue, chez les infirmiers. Et comme on est enseignant aussi, on participe à la formation des internes. Donc, ils sont conscients qu'il y a un gap à combler. Et donc, la maladie de peau étant très fréquente, il faut prendre ça dans ce contexte de paquet de services de couverture sanitaire universelle.
C'est à peu près 30% des visites en général.
Oui. Quand on prend globalement au niveau national, la fréquence est entre 25-30% selon au niveau de consultation.
Raphaël, nous sommes toujours au CHU Sylvanus Olympio, toujours à Lomé. On retourne en consultation avec le professeur Vincent Pitcher.
Oui, en salle d'attente de dermatologie où une patiente attend son tour. Bonjour madame.
Bonjour.
Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui à l'hôpital?
Je suis venue parce que j'ai mal au bras, ça me fait mal. Je suis partie voir un médecin et c'est le médecin qui m'a indiqué de venir ici pour me consulter.
En dermatologie spécifiquement?
Oui, oui.
Pourquoi?
Parce que j'ai les boules sur mon bras et ça me fait mal dedans. Je n'arrive même pas à dormir.
Votre bras, il est gonflé, je vois, il y a des boules.
Il y a des boules. Ça fait 2 semaines ça, que ça me fait mal.
Et vous avez déjà eu des problèmes de peau?
Non, pas. Non. C'est la première.
Et c'est payant, ces consultations?
Oui, c'est payant. J'ai pris le bon, 3000 francs. Le bon, là, ça fait un mois. Si on prend 3000 bons, là, ça fait un mois.
Donc c'est un bon et accès à tous les médecins pendant un mois, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Et vous habitez où?
J'habite à Agoué. Agoué.
C'est loin?
Oh, c'est loin. Mais au déplacement, là, tu dois dépenser 2000 francs, aller, retour.
Et vous faites quoi?
Je suis couturière.
Et ça marche comment?
Oh, ça marche. Parce que je suis veuve. Donc, c'est à base de ça, moi et mes enfants, on vit.
Et je vois que vous avez votre carnet de santé dans les mains.
Oui,
c'est ça. C'est un carnet vert?
Oui. C'est maintenant que je suis venue.
Je peux vous accompagner?
Oui. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, c'est madame Cadenou, c'est ça?
C'est madame.
Je vais donner votre carte. Qu'est-ce que vous avez, madame?
J'ai mal au bras.
Ouais.
Dedans, c'est comme crampe. De toute façon, j'ai mal jusqu'au cœur.
Au cœur aussi. Diclo, 115, turban, d'accord. Kétoprofène anti-inflammatoire.
On m'a prescrit, j'ai payé les médicaments. J'ai dit peut-être que ça va aller. Mais j'ai pris les médicaments, ça ne va pas, c'est pour ça.
C'est tout le corps ou bien c'est
le bras seulement?
C'est le bras seulement. D'accord. Les nodules que je vois là, c'est sorti d'un seul coup ou bien c'est sorti progressivement?
Progressivement.
Progressivement. Vous allez vous lever, vous allez dans l'antichambre là-bas. Vous allez lever votre chemise, je vais regarder de près. Ça fait mal quand j'appuie?
Non.
Vous consommez la viande du porc?
Non.
Pas trop quoi. Le problème que vous avez, c'est que vous avez des nodules, c'est-à-dire c'est des petits masses là sous la peau. Donc on va vous faire un petit bilan de sang. Mais aussi ce qu'on va faire, on va faire un petit prélèvement de nodules quand on va au laboratoire pour voir quelle est la masse. Est-ce que c'est juste un nodule bénin, c'est-à-dire que c'est un kyste, tout ça. Parfois, je vous posais la question pour savoir si c'est comme c'est dû, parfois c'est dû à des kystes de porc aussi. Donc, on va voir si c'est ce qu'on appelle parasite. Donc, sans prendre ça, maintenant, on va vous traiter. Comme vous n'avez plus mal, aujourd'hui, c'est on fait le bilan. Et puis, on vous revoit après.
D'accord.
Donc, on fait comme ça, madame.
Merci beaucoup.
Et donc, à la prochaine.
Merci, docteur.
Est-ce que c'est un cas courant, ce genre de kyste?
Les lésions kystiques ne sont pas très fréquentes. En général, c'est des tumeurs bénignes. Le problème des tumeurs bénignes en Afrique, c'est que la plupart des tumeurs, si ce n'est pas des kystes, ça peut être d'origine infectieuse. C'est pour ça que le médecin n'a pas pris en charge en périphérie. C'est pas ce qu'on voit tous les jours. Je suis sûr que même si la femme, si ce n'est pas très douloureux, ne va pas consulter. En général, c'est quand il y a des signes, quand ça fait mal. Ou bien les femmes qui ont des problèmes esthétiques, ça les gêne, ne finissent pas consulter. Mais c'est la problématique d'accessibilité financière aux soins en Afrique en général. Ça dit que oui, il y a le service, mais l'aspect financier fait que c'est limitant. Maintenant, c'est sûr que quand on va lui demander l'analyse, la NAPAT coûte à peu près 7000 francs CFA, le bilan va lui coûter pareil, donc c'est sûr que ça peut constituer une limite.
Et justement, au Togo, qu'est-ce que c'est la couverture médicale en termes d'assurance?
Au Togo, on a l'assurance maladie, qu'on appelle INAM souvent, qui couvre à peu près les fonctionnaires de l'État et les familles, et les assurances privées, et donc on est autour de 7 à 10% maximum, la couverture, donc on est encore faible. Donc, mais le gouvernement fait un effort actuellement, parce qu'il veut étendre l'assurance maladie au secteur informel, notamment au groupement des femmes, aux émigrants, les taxi-moto, pour élargir un peu l'assiette des ayants droit.
Et est-ce que vous, dans le service de dermatologie, ça vous impacte le manque d'assurance maladie, donc potentiellement le fait que les patients viennent moins vous voir ou suivent moins les traitements après la consultation?
Évidemment, ça nous impacte parce que selon qu'on est en face un patient qui a l'assurance maladie, on ne réfléchit pas pour prescrire les médicaments qu'il faut. Maintenant, si le patient qui n'a pas l'assurance maladie, on s'est dit, le médicament coûte cher, donc il faut on adapte malheureusement le type de traitement à la bourse, et donc on fait médecine à deux vitesses. Et donc on a encore des gens qui sont vus en périphérie, qui font des médecines alternatives, qui vont aller faire médecine chez les tradithérapeutes, aller voir des agents non qualifiés, et c'est quand ça s'aggrave, quand ils n'ont pas le choix, là, ils viennent ici, parfois en dernier recours, quand ils ont fini de dépenser l'argent en périphérie, et ça c'est très fréquent.
Coucou. Rentre chez vous. On est dans une cour, il y a quelques arbustes, il y a du linge qui sèche.
Nous sommes à Damavo, au-delà du port d'Onam. Moi, mes enfants ont des problèmes de peau. Les deux là.
Vous avez deux filles?
Les deux filles là. Ils
bonjour. Vous vous appelez comment?
Edith. Moi, c'est mademoiselle Gone Agnès et Jacqueline.
Et quel problème de peau vous avez? Vous pouvez m'expliquer?
Bon, la maladie de peau, là, ça la gratte. Mais on ne connaît pas le nom. Si on va à l'hôpital, on dit que c'est de l'allergie.
En fait, vous avez des plaques noires sur les jambes, comme des dartres, et ça gratte, c'est ça?
Oui, ça gratte. Et ça devient des plaies sur la peau, quoi.
Et donc, vous avez vu un médecin?
Bon, on a consulté un dermatologue qui se trouve à Abidji Clinique. Clinique qui se trouve à Abidji. Il n'avait pas fait des analyses pour voir si... Bon, pour aller en profondeur, quoi. Il a juste dit que c'est de l'allergie. Il a prescrit des médicaments et des piqûres. Diprostène, c'est piqûres. Et l'autre, c'est médicaments.
Et donc, les plaques que vous avez, elles remontent sur tout le corps, dans le cou aussi et sur les bras?
Sur les seins, sur le dos, aux alentours des oreilles, sur les jambes.
Et ça fait combien de temps que vous avez ces plaques sur les jambes?
5 ans. C'est à peu près quelques mois que ça apparaît chez moi. Moi, je n'ai pas encore vu de dermatologue.
Et est-ce qu'avant le dermatologue, vous avez vu d'autres médecins pas spécialisés en dermatologie?
Oui, oui, oui. On a vu des médecins. Bon, ils ont pris leurs petits médicaments. Ils ont fabriqué des médicaments pour elle. Mais ça ne résout pas le problème.
Et c'était un tradit praticien ou c'était un médecin généraliste?
Non, tradit praticien. Et le premier a fabriqué du savon à base de aloe vera, du soufre et mélangé avec de l'huile d'arachide. Le deuxième a fabriqué ça à base de moringa. Et les autres, on nous a envoyé dans les pharmacies pour acheter des savons qui traitent les taches des maladies de la peau.
Et le traitement, ça coûte combien?
Tout cela fait 18 000 à 20 000. Comme on a les mêmes choses, donc si on l'a prescrit des médicaments, je prends avec elle.
Donc vous partagez le traitement en fait?
Ouais, on partage. On est bon. Les vacances passées, on a arrêté les traitements puisque rien ne se passe. La maladie, bon, les taches sont encore toujours là. C'est compliqué.
C'est compliqué même, parce que tu as vu quelque chose, tu vas chez le dermatologue, tu vas chercher le dermatologue jusqu'à ce que tu vas le trouver, c'est difficile à le trouver. Si tu le trouves maintenant, l'argent que tu vas utiliser là, ça va faire que tu n'arrives pas à arriver, ça te décourage. C'est comme ça à Togo, c'est décourageant, vraiment c'est décourageant.
Alors si ce problème d'accès financier est un vrai frein à la prise en charge des problèmes de peau, le manque de formation des spécialistes constitue également un obstacle majeur à cet accès aux soins dermatologiques.
Tout à fait, et à en croire le professeur Vincent Pitché, chef du service de dermatologie au CHU Sylvanus Olympio, les futurs dermatologues ne sont pas suffisamment formés aux affections cutanées les plus courantes sur le terrain. Et par ailleurs, le diplôme spécialisé en dermatologie coûte 500 000 francs CFA par an pendant 4 ans et ce, sans bourse ni soutien de l'État pour les étudiants nationaux.
Alors précisément, Raphaël, lors de ce séjour à Lomé, quelle problématique particulière, quel besoin prioritaire avez-vous pu identifier?
Alors les dermatologues sont de plus en plus confrontés aux problèmes des patients et patientes qui se dépigmentent la peau avec des produits qui provoquent de graves brûlures. C'est un véritable enjeu de santé publique et pour en savoir plus sur cette pratique, je suis allée au Grand Marché à Lomé.
Bonjour.
Bonjour.
Je cherche les produits pour éclaircir la peau. Il y en a ici. Il y en a ici.
Une pommade bien éclaircie, ça rend la peau dure.
Vous avez sorti un flacon. Comment ça s'appelle?
Gluta.
Gluta Kojic
White. Mais Karka Gold.
Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dedans?
C'est à base de carotte.
C'est à base de carottes. Ouais. Et la carotte, ça éclaircit la peau?
Ouais.
Il y a de la glycérine, de l'alcool, du glycol. Vous utilisez ça, madame?
Non. Non, les gens viennent ici pour emporter ça, beaucoup, beaucoup.
Et pourquoi les femmes, elles veulent éclaircir la peau?
C'est la vie. Eux aussi veulent ressembler les blancs.
Vous savez qu'il y a des produits dangereux dans ces produits?
Ouais, il y a des produits dangereux dans ces choses-là, mais... C'est à toi de choisir, tu vois, non? Si c'est bon ou c'est pas bon pour toi, c'est à toi de voir. Sinon, nous on vend ça. Banalement, toute la semaine, nous on vend ça tous les jours. Vous voyez?
Et qu'est-ce que vous vendez le plus? C'est les produits naturels ou c'est les produits pour éclaircir la peau?
Non, on vend les produits pour éclaircir la peau souvent. Pour éclaircir la peau, on vend plus que ça que les produits naturels.
Plus que les produits naturels?
Oui.
Merci.
Au Togo, la dépigmentation, comme dans tout pays africain, je peux le dire, on est confronté à ce problème. C'est Fako Akakpo, je suis dermatologue au CHU Sylvanus Olympio à Lomé au Togo. Mon mémoire de fin de spécialisation en dermatologie avait porté sur ça, sur les complications systémiques de la dépigmentation au Togo. Durant ce travail, on a eu à voir à peu près 150 patientes qui se dépigmentaient et on a constaté que les gens connaissent les complications cutanées qu'au décours de la dépigmentation, on a une fragilité de la peau, ce qui entraîne les infections bactériennes, mycosiques. On les voit plus dans les zones photo-exposées, à la poitrine, au visage, à la partie supérieure du dos, au niveau du pied. Surtout ça, les gens pensent que c'est surtout les complications cutanées, alors qu'il y a les complications systémiques. On a vu que le fait d'utiliser les dépigmentants, principalement les dépigmentants à base de corticoïdes, ça entraîne une hypertension et le fait d'avoir une glycémie. Et les gens ne savent pas que, en se dépigmentant, on peut avoir ces pathologies-là.
Surtout que généralement, les femmes vont chercher des produits dérivés, souvent sur les marchés, qui sont des produits de très mauvaise qualité, s'enduisent la nuit et le matin, il reste quand même une couche sur la peau qui est exposée au soleil, donc deux fois plus dangereuse.
Oui, effectivement. Et ce qui est grave, c'est que les produits actifs de ces dépigmentants, c'est vrai que surtout les corticoïdes, c'est des produits qu'on doit vendre en pharmacie. Mais chez nous ici, c'est des produits que vous trouvez au marché, chez les bonnes femmes, à vil prix. Donc les gens prennent ces produits et les mettent dans leur crème habituelle et se le mettent sur la peau tous les jours, durant des années, des années, des années. Ouais.
Et quels produits sont utilisés pour dépigmenter la peau, pour éclaircir la peau?
Oui, pour éclaircir la peau, habituellement, les gens utilisent les produits à base d'hydroquinone, à base de corticoïdes, de dérivés mercuriels. Et actuellement, le produit phare, c'est le glutathion. Ce qui est grave actuellement et qu'on rencontre en consultation, c'est des femmes qui viennent en consultation avec leur bébé et disent qu'ils veulent que leur bébé garde leur teint. Ce qui n'est pas possible. Un enfant naît, c'est vrai, l'enfant est clair, mais on est quand même en Afrique avec le soleil là. La peau va changer maintenant. Elle demande à ce que nous, on précise des choses pour que l'enfant, que la peau ne noircisse pas. Actuellement, c'est le grand problème qu'on a.
Et en termes de traitement?
Ça dépend de la dermatose que la personne amène. En cas de chronose, la peau est déjà brûlée, il n'y a pas un traitement spécifique. On peut arrêter l'évolution vers la complication ultime qui est le cancer de peau.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement, vous, en tant que dermatologue?
En tant que dermatologue, c'est sensibiliser, c'est toujours la sensibilisation. On ne cessera jamais assez d'en parler sur tous les médias des méfaits de la dépigmentation. Il faut toujours sensibiliser, on va continuer parce que c'est comme la drogue, on peut pas. Il y a des moyens qui sont mis en place pour éviter que les gens ne se droguent, mais on ne peut pas arrêter ça. Non, il faut toujours sensibiliser, ouais. Je pense que c'est la sensibilisation.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé, au Togo, un pays qui manque cruellement de praticiens dermatologues et où la majorité d'entre eux est centralisée dans les deux grandes villes, Lomé et Kara. Alors on vous retrouve, hein, Raphaël Constant, on a perçu les freins, les obstacles pour s'adapter aux réalités du terrain. L'une des réponses des professionnels de santé dermatologique, c'est la télémédecine.
Oui, ces trois dernières années, le Togo a connu une vraie révolution dans la e-santé. De nombreuses applications ont vu le jour et leur objectif est de rendre l'information plus accessible à tous. Mais pour que le public s'approprie vraiment ces nouveaux outils, il faudrait que le taux de pénétration d'Internet, actuellement de 12%, que ce taux donc progresse.
Alors Raphaël, on l'a entendu, hein, le Togo est confronté à une véritable inégalité d'accès aux soins en fonction de cette localisation des patients, zone rurale ou capitale.
Exactement, et la télédermatologie permet donc de toucher des patients qui en temps normal n'ont pas accès aux soins dermatologiques de qualité. C'est en tout cas le projet qui est développé au Togo sur 5 ans, une première phase pilote de 2 ans sur 20 sites, puis une extension sur 3 ans. Et finalement, Caroline, l'idée c'est aussi de pousser le gouvernement et les autres pathologies, gynécologie, pédiatrie, etc., à suivre l'exemple de la dermato pour qu'ensemble, les professionnels de santé travaillent dans le sens d'une couverture couverture sanitaire universelle partout où se trouve le patient au Togo. Donc la télédermatologie comme solution pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des maladies de peau, et c'est le professeur Ousmane Faye, chef du service de dermatologie du CNAM au Mali, qui a mis en place en 2015 le programme Télédermalie, un programme de télé-expertise via une plateforme sécurisée nommée Bogou.
Le modèle de télédermatologie que nous avons développé est basé sur la télé-expertise. Il s'agissait de répondre à une problématique qui consistait à améliorer la prise en charge des affections dermatologiques dans les centres de santé périphériques. Et ceci à la suite des efforts de formation que nous avons menés et qui ont été malmenés par la crise sécuritaire qui a sécué notre pays, avec une grande partie du pays envahie par les islamistes, la désorganisation du système de santé, les agents formés qui ont quitté leur opposition. Ceci nous a obligés à aller vers une initiative, une innovation qui pourrait s'appuyer pour les agents sur les agents de santé qui ont un minimum de compétences et de façon à ce qu'ils puissent prendre en charge les problèmes de santé cutanée. Et ce que nous avons fait, nous sommes appuyés sur ces agents de santé de première ligne en donnant une compétence formée aux affections dermatologiques de base. Dès lors qu'ils sont en face des patients posant un problème diagnostique, ils prennent les images, ils ont la compétence de les envoyer avec un minimum d'informations cliniques au dermatologue, et lui, il analyse en retour dans les heures qui suivent et en donnant un diagnostic, un traitement à prescrire au patient. Et ceci pour répondre à justement à ce besoin de santé cutanée non satisfait. Et effectivement, nos consens ont remarqué que partout où nous avons installé cette initiative-là, les populations ont augmenté leur fréquentation dans ce centre, pour, notamment pour les besoins de santé cutanée.
Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour élaborer ce projet et le rendre pérenne?
La plus grande difficulté, c'est la disponibilité de la connexion Internet. L'autre difficulté, c'est véritablement la pérennité. Et là, nous avons signé une convention en invitant les directeurs des régions de la santé à suivre, à superviser les agents de santé, à les accompagner pour que le matériel qu'ils ont en leur possession puisse être en bon état, qu'on puisse le remplacer en cas d'avarie, et également qu'on puisse les aider à avoir une connexion, soit en leur donnant des forfaits de connexion, soit en mettant en place des systèmes Wi-Fi qui les permettent d'avoir la connexion en permanence dans leur centre.
Donc finalement, est-ce que la télédermatologie permet aussi de renseigner et de documenter les différentes affections ou infections dermatologiques dans un pays?
Absolument. Vous savez, les statistiques des services de santé non spécialisés ne sont pas, fiables dans la mesure où il n'y a pas de dermatologue. Mais dès lors que nous avons mis en place ce système-là, c'est comme si le dermatologue s'est déplacé pour aller faire des consultations dans ce centre-là. Et c'est ce qui ressort de toutes ces évaluations. Contrairement à l'idée qu'on se fait que dans les centres de santé de premier recours, on voit beaucoup plus de pathologies banales, c'est tout à fait faux. Nos évaluations montrent que les pathologies que nous voyons en milieu spécialisé dermatologique est exactement le même profil que l'on observe dans le centre de santé de première ligne que nous avons récemment équipé. À la fois, le dermatologue, il gagne parce que lui, ça lui permet de voir des pathologies qu'il n'a pas vues depuis des années. Et je peux vous dire qu'en 4 années d'exercice, nous avons reçu des images, des pathologies pour lesquelles je n'ai vu qu'une seule fois dans ma carrière depuis environ 20 ans maintenant d'exercice. Comme par exemple les kératomes malins, le fœtus arlequin, c'est une pathologie que j'avais vue une seule fois dans ma carrière dermatologique. Je pense que la télédermatologie a un bel avenir. Pour nous, c'est un outil. Ça ne va jamais remplacer le dermatologue. Ça ne va jamais remplacer le médecin. C'est comme si on lui donnait, on va dire, un stéthoscope pour l'aider à ausculter. C'est véritablement ça, ce qu'on attend. Ce n'est pas une fin en soi. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça permet de prendre en charge la majorité des affections.
Professeur Saka, dermatologue au CHU Sylvanus Olympio.
Et qu'est-ce que vous nous montrez?
Je vous montre comment fonctionne la plateforme Bogou que nous utilisons dans le cadre de la télédermatologie. Voilà, donc je tombe sur cette page.
C'est une plateforme en ligne?
Oui, c'est une plateforme en ligne. Où vous voyez ici, c'est mis « Ajouter un cas ». Ça, c'est pour les agents de santé qui sont en périphérie et qui veulent nous envoyer des cas. Et donc, si je prends l'exemple de ce cas, la polyclinique de Sokodé, donc c'est...
Il est à 300 km d'ici.
Oui. Alors, on voit ici l'agent de santé qui a posé le cas. Il se nomme M. Ahe Kosivi. Voici, bonsoir cher maître, patient 2. Il a décrit un peu le cas avec le diagnostic auquel il pense. Et donc, il a joint des images. Lorsque il envoie, nous, on a une alerte. Et vous voyez, là, c'est la réponse de notre collègue, l'experte. C'est le docteur Teklesou Julien qui lui a répondu. Bonjour, monsieur. Il s'agit de lésions en médaillon disséminées sur le tronc, bras faisant évoquer un petit raie de rosée de Gibert. Conduite à tenir, elle lui a indiqué ce qu'il faut faire. Et donc, le patient devait être revu dans 2 semaines. Voilà, donc ce cas a déjà eu de réponse. Donc, je n'ai pas besoin de répondre encore.
Et vous avez à peu près combien de cas par semaine ou par mois?
Nous avons commencé le 20 mai. Et en un mois, on a eu autour de 223 cas. On a essayé de voir le minimum que chaque centre envoie sur les 20 centres qui ont été sélectionnés. Le minimum était de 3 cas, le maximum était de 38 cas. Voilà, donc ça faisait une moyenne de 10 cas par centre.
Et comment ça fonctionne? Ça veut dire que le premier dermato qui est en ligne répond?
On a reparti les tâches. Puisqu'il y a 4 régions qui sont concernées, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et la région des savanes. J'ai confié la région des plateaux au docteur Akakbo. La région centrale, j'ai confié ça au docteur Teklesou. La région de la Kara, c'est moi-même qui m'en occupe. Et puis la région des savanes, c'est le docteur Nyoske qui s'en occupe. Donc, on est 9 dermatologues sur la plateforme. Mais pour le moment, c'est les 4 qui répondent.
Et comment vous avez fait? Il y a une formation des agents dans les centres de santé?
En fait, on a pris 2 agents par centre. Donc, les 40 agents venaient donc de 20 centres. Il y avait une formation clinique de 2 jours où on les a un peu formés sur l'utilisation des guides, hein, sur ce qu'il faut faire devant une dermatose avec des algorithmes simples, précis et très compréhensibles. Et puis, il y avait une 3e journée où nous avions des experts qui maîtrisent cette plateforme beaucoup, qui nous a enseigné à nous tous, aussi bien les agents de santé que nous, les experts, comment utiliser cette plateforme.
Et donc l'idée, c'est d'étendre cette plateforme, enfin en tout cas cet accès à cette plateforme, à tous les centres de santé dans les régions?
C'est de l'étendre à la fin de généralisation à 30 autres centres. Qui dit 30 autres centres dit 60 agents, puisque dans le projet, c'est dit 2 agents par centre de santé. Donc l'objectif à terme de ce projet, c'est d'avoir formé 100 agents qui travaillent dans 50 centres.
Je suis Béatrice Garrette, la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre.
De quel constat vous êtes partie en termes de e-santé?
Alors en fait, on a eu des démarches parallèles, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la dermatologie là depuis 5-6 ans, parce que justement ce sont des affections qui peuvent être simples ou complexes ou et parfois très graves, mais qui sont surtout très négligées et qui par contre constituent un fardeau important pour les populations, puisque toutes les évaluations des différents professionnels de santé nous disent souvent c'est la 2e ou 3e motif de consultation dans les centres de santé de base. On est bien conscient qu'on n'est pas dans les grandes pathologies ciblées par les grands bailleurs, le Fonds mondial, etc. On est un peu sur des angles morts. Donc il y a déjà, je pense, il faudrait peut-être qu'il y ait une prise de conscience pour que, quand on pense santé mondiale et coopération santé, etc., on sorte un peu des silos. Et c'est vrai qu'en parallèle, on s'était intéressé à tout ce qu'on appelle la e-santé. Et donc la télémédecine est une des composantes de la e-santé. C'est comment justement pallier le déficit de spécialistes et comment faire qu'on puisse poser un diagnostic, apporter en fait des traitements à distance sans obliger les gens à se déplacer dans les rares centres où sont présents les spécialistes de santé. C'est de l'innovation, parfois sociale. Mais l'idée, c'est que c'est un accélérateur d'inclusion des populations aux services de santé essentiels. Voilà. L'objectif aussi, c'est que la e-santé, quand elle est développée par les acteurs locaux, elle répond, un, aux problématiques locales, et deux, elle tient compte du contexte aussi. Donc il est hors de question, effectivement, de faire des programmes qui seraient uniquement opérables sur des smartphones ou avec du haut débit d'Internet. Donc la plupart de nos programmes, ils utilisent des téléphones simples, c'est du bas débit, et reposent aussi sur la façon dont la population elle-même s'est appropriée ces outils. Parce que enfin, le constat est là. Enfin, en quelques années, le téléphone portable a explosé. Tout le monde en a un. Même des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Même des personnes qui communiquent uniquement avec des langues vernaculaires, etc. Donc, utiliser ces outils de technologie simples qui se sont infiltrés, qui sont maintenant totalement maîtrisé par la population pour pouvoir accélérer l'inclusion des services de santé. Alors, ça n'empêchera pas qu'il faut des hôpitaux et des médecins et des infirmières bien formés, mais ça peut permettre quand même d'avoir des modèles adaptés et qui permettent d'aller plus vite, et puis aussi qui soient peut-être moins gourmands en ressources, quoi. C'est-à-dire trouver des manières peut-être plus rationnelles d'utiliser l'investissement public en domaine de la santé.
Et à quelle hauteur de budget vous soutenez ce projet de télédermatologie ?
Pour ce projet au Togo, c'est autour de 120 000 euros. Après, nous, notre philosophie, c'est quand même d'accompagner au très long cours. C'est-à-dire que, bon, on fait souvent des programmes de 3-4 ans, mais sincèrement, c'est pas quand le programme est fini. En général, si ça s'est bien passé et qu'on a réussi à développer, effectivement, la relation et les résultats ont été estimés positifs, on continue. C'est-à-dire qu'on essaie de progresser avec les acteurs. Alors en plus, il y a un deuxième programme qui en fait se lance avec le même partenaire, la Sotoderm, la Société Salvante des Dermatologistes, mais également avec l'Association Nationale des Albinos du Togo, la NAT. C'est donc un programme plus spécifique qui est de la dermatologie également, mais qui s'adresse aux personnes atteintes d'albinisme. Et où là, l'absence de soins dermatologiques a un impact vital, quoi, puisque évidemment c'est la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de la peau. Ils sont extrêmement vulnérables et même des enfants très jeunes peuvent commencer à développer des lésions précancéreuses. Donc il faut de l'éducation, il faut leur donner tous les moyens de prévenir en fait les effets néfastes du rayonnement du soleil, donc se protéger par des vêtements mais aussi par des crèmes solaires ou anti-solaires, et puis leur donner accès de façon régulière à des consultations dermatologiques pour pouvoir prendre le plus tôt possible en charge les lésions précancéreuses afin que ça ne devienne pas catastrophique.
Je suis Souradi, le président de l'Association nationale des albinos du Togo. Nous sommes au quartier Agbalepedogan, au siège de l'Association nationale des albinos du Togo. L'Association nationale des albinos du Togo a été créée en 2012 dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme. Et donc, nous intervenons dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la discrimination et de l'insertion socio-économique des personnes atteintes d'albinisme.
Donc on est juste devant l'association, c'est une maison en toit, avec un toit en tôle.
Oui, c'est pour l'instant ce que nous avons aménagé un peu comme siège. Ça nous sert aussi à la fois de laboratoire, puisque nous avons une petite unité de production de crème solaire distribuée aux personnes atteintes d'albinisme.
Bon, on rentre ?
Oui.
Je vous suis.
On y va.
Moi, c'est Akakbo Adjoa Nyona, étudiante en 5e année pharmacie à l'Université de Lomé. Membre de l'Association nationale des albinos du Togo, responsable de l'unité de production de crème solaire. Et notre laboratoire se résume à une petite pièce dans laquelle nous rangeons de manière optimale tous nos matériaux de fabrication du crème solaire.
C'est une petite pièce qui est accolée au local de l'association,
oui.
Qui ressemble plus à une cuisine.
Oui. Vraiment.
Et devant nous, je vois une marmite, des becs verseurs.
Pour fabriquer 10 pots de crème, par exemple, on pèse 1650 g de vaseline, 1215 g de l'oxyde de zinc et 135 g du dioxyde de titane. Le gaz là, pour chauffer la vaseline, mais sans la bouillir. Après liquéfaction complète, on enlève ça du feu et maintenant on ajoute nos matériaux. C'est le trashol seulement que j'ai cité qu'on utilise pour faire. Il n'y a pas de corticoïdes dedans. Bon, la crème qu'on fabrique maintenant, c'est FPF 50. Ça veut dire que ça nous protège à 50% contre le soleil. C'est mieux que rien quand même. Tous ceux qui l'utilisent, ils sentent une amélioration. Quand tu passes la crème, quand tu sors sous le soleil, le cou n'est pas aussi dur. Donc, mais la doléance, c'est que si on peut avoir dans les jours à venir, FPS 80. Nous sommes dans un pays où le soleil te frappe comme un fouet. On distribue ça gratuitement.
Parce que sinon, il n'y a pas de prise en charge de ce genre de crème pour les personnes atteintes d'albinisme au Togo?
Non, il n'y a pas de prise en charge. Ça coûte très cher, ça coûte vraiment cher. Moi, j'en ai acheté à 11 000, mais c'est dans une petite boîte comme ça, comme les pâtes dentifrice, mais c'est cher. Tellement que, bon, si ça finit, tu vas attendre un bon moment avant de réunir l'argent encore aller acheter. Vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau dans ma vie. Et les lésions précancéreuses qu'on a eu à m'opérer, des fois, on opère, ça ne marche pas, on reopère. Tout ça, vraiment, ce sont des souffrances. On a premièrement les kératoses actiniques, et que la peau devient un peu rigueuse. Ça commence par faire de petits plaies. Et après, la presse s'élargit, devient des plaies précancéreuses. Et si ça, ce n'est pas pris à charge, ça va devenir des plaies vraiment cancéreuses, des carcinomes même. Bon, pour les basocellulaires, bon, c'est que c'est une plaie superficielle. C'est eux qui font souvent l'objet de cas simples qu'on enlève sur place. Mais spinocellulaire, c'est que bon, les tissus intérieurs, internes ont commencé par être atteints. Et vraiment, ça devient un peu compliqué. Des fois, on enlève, il faut greffer. Parce que si on ne greffe pas, ça ne peut pas se cicatriser. Ça, si tu n'es pas courageux, tu vas abandonner parce que personne ne te considère.
Et à partir de quand vous avez vu un dermatologue?
Bon, j'ai commencé à voir un dermatologue vraiment quand j'étais en classe de 5e. Là, il y avait une lésion qui s'est développée dans ma poitrine, autour de la poitrine. Et bon, un cousin est arrivé à la maison comme ça, il a dit que non, qu'on doit m'amener à l'hôpital. Il m'a demandé, ça traîne depuis quand? Je dis, ça traîne depuis 2 ans, ça. Et c'est lui qui m'a payé la consultation, tout ça. Après, on m'a opéré, ça a marché. Je n'ai pas pris conscience que bon, à partir de ce moment, il faut protéger. Aucun médecin ne m'a pas conseillé comme ça de me protéger. Je vendais même sur le soleil. Et quand tu ramènes l'argent à la maison, ça c'est ma petite histoire. Tout le monde est content, ta mère est contente, c'est comme tu es en train de travailler pour elle, elle est contente. Mais personne ne savait que tu es en train de détruire ta peau comme ça. Donc c'est le message toujours qu'on porte aux parents des albinos, que de savoir que leurs enfants ne sont pas comme les autres enfants, de comprendre et d'aider leurs enfants à ne plus subir ce que nous, on a subi maintenant.
Aujourd'hui, Raphaël, quels sont les défis qui restent à relever en termes de santé de la peau au Togo?
Aujourd'hui, Caroline, pour aller plus loin dans la prise en charge des maladies de peau, le réel besoin des dermatologues, c'est la chirurgie. Par exemple, pour des petits actes comme l'ablation d'un kyste, d'une cicatrice kéloïde en relief ou d'une tumeur cutanée chez les personnes atteintes d'albinisme, les dermatologues doivent aujourd'hui renvoyer les patients vers les chirurgiens. Car pour l'instant, il n'y a pas de place pour la chirurgie dermatologique et elle n'est pas encore inscrite dans les programmes de formation.
Santé de la peau au Togo, c'était un reportage de Raphaël Constant. Merci Raphaël.
Merci Caroline.
Reportage réalisé par Didier Bleu en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre. Et à partir de lundi, Priorité Santé vous propose de suivre une nouvelle série de portraits d'entretiens avec des médecins au parcours d'exception. Deuxième saison que nous entamons donc lundi par un portrait inédit du docteur Denis Mukwege, gynécologue, fondateur et directeur de l'hôpital de Panzi, prix Nobel de la paix 2018, pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Nous sommes allés le rencontrer avec son équipe au début du mois à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. J'espère donc que vous serez nombreux, nombreuses à partager ses souvenirs et son engagement, qu'il a donc livré au micro de Priorité Santé. On se retrouve lundi.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
RFI se décline en deux